dictionnaire de sagesse ancienne. Cette émission présente les idées fondamentales de la sagesse éternelle, sagesse ancienne qui comprend les traditions initiatiques du passé, mais aussi les enseignements ésotériques modernes. Et durant une heure, nous allons tenter de vous fournir quelques définitions, quelques mots-clés en rapport avec cette sagesse ancienne. Bonjour David.
Bonjour Olivier, bonjour tout le monde.
Alors j'ouvre le dictionnaire à la lettre S, S-H, Shambhala, S-H-A-M-B-A-2-L-A. Shambhala, c'est un lieu, et puis c'est un plan de conscience. Compliqué ça.
Peut-être qu'on peut donner l'étymologie de Shambhala. C'est un mot sanskrit. La racine sham, c'est le verbe pacifier. Ça donnait la paix, c'est en quelque sorte le lieu...
Shalom, ça vient de là?
Shalom vient de là, tout à fait. Donc, Yerushalom, Jérusalem, c'est une formule qui est en quelque sorte copiée sur le Shambhala, hein, une sorte de cité de la paix. Au niveau ésotérique, ça a un sens... très très particulier, donc géographiquement ça serait situé entre la Chine et la Mongolie, dans le fameux désert de Gobi. Gobi voulant dire désert d'ailleurs, c'est une répétition. Hein.
Gobi en quoi en
Ça doit être peut-être en mongol, je crois, en langue mongole. Mais en tout cas, c'est une région désertique, et serait le lieu de Shambhala. Dans ce désert, il y aurait... des êtres qu'on appelle les Kumaras, les Dhyani Bouddha, les êtres qui supervisent l'évolution planétaire dans son ensemble et qui seraient présents depuis 18,5 millions d'années, dit la doctrine secrète de Madame Blavatsky. Ils sont présents dans un corps éthérique, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Ils sont dans un corps de lumière, en fait.
Invisible à nos yeux.
Invisible à nos yeux. Quelle relation ont-ils avec l'humanité? Il faut comprendre la relation avec la hiérarchie des maîtres de sagesse. Ils forment une triade. Il y a Shambhala, la hiérarchie spirituelle de la planète, et l'humanité. Les trois règnes principaux, en quelque sorte. Les trois règnes supérieurs, si l'on veut. Et Shambhala représenterait la tête, la couronne. Au niveau du dieu de la planète, si on devait représenter ces trois règnes dans son corps, Shambhala représenterait la tête dirigeante. Donc l'énergie de la volonté, du pouvoir spirituel. La hiérarchie représente le cœur, l'amour-sagesse.
Donc hiérarchie des maîtres de sagesse.
Voilà. Et l'humanité, la gorge, l'intelligence créative, l'activité.
D'accord, donc on va se concentrer là sur Shambhala. Donc un lieu sur les plans éthériques de la matière. Ouais. Donc faut-il le rappeler à la matière, il existe la matière solide, liquide, gazeuse, et au-dessus donc c'est la matière éthérique. Donc, est-ce qu'il y a quoi? Il y a des êtres là, mais il y a donc des villes, il y a des...
Non, en fait, c'est un centre spirituel, et se trouvent les sept grands êtres, qu'on appelle donc des Kumaras ou des Dhyani Bouddha en langage bouddhiste, hein. On pourrait dire des archanges en langage chrétien, même si c'est pas exactement la même chose, ils travaillent avec des archanges, mais ce sont des maîtres, mais qui sont les... plus évolués encore que les maîtres. Ce sont des êtres cosmiques qui représentent une sorte d'instance de direction générale. Ce sont en fait les assistants du logos planétaire, du dieu de cette planète. Et ils sont sept parce que les sept énergies transitent par eux. Les sept énergies planétaires, les sept rayons planétaires majeurs transitent par eux. Et bien sûr, ils agissent en coopération avec les maîtres. Donc nous n'avons pas de contact avec ces grands êtres. Mais les maîtres, eux, surtout les plus évolués parmi eux, ont un contact avec ces grands Kumaras, ces grands êtres, avec à la tête Sanat Kumara, qui est un nom connu dans l'hindouisme. Sanat Kumara, c'est Sanat, ça veut dire ce qui est ancien, donc qui correspond à l'ancien des jours dans la Bible. On peut l'appeler Melchisedec, c'est quelque sorte Jéhovah en quelque sorte. Hein. C'est vraiment celui qui représente le mieux. Le dieu de cette planète, il est en quelque sorte son reflet sur cette planète. Donc il est entouré de six autres assistants, qu'on appelle donc des Kumara, et ce sont donc des êtres qui ont une conscience cosmique et planétaire à la fois, et qui servent de pont entre le dieu de cette planète et tout ce qui se vit à l'intérieur. Donc chaque Kumara contrôle un règne en quelque sorte, chaque Kumara est relié à un rayon, et ensemble donc ils œuvrent en coopération avec les maîtres de sagesse qui, eux, œuvrent en coopération avec l'humanité. Donc, c'est un lieu qu'on a souvent confondu avec l'Himalaya, hein, avec donc la chaîne de montagnes, l'Himalaya, où là, on a plutôt un lieu de retraite pour les maîtres de sagesse. Hein, on a d'autres lieux de retraite où les maîtres ont vécu pendant des milliers d'années, dans les Andes, les Carpates, les montagnes rocheuses, l'Atlas, l'Oural, donc un petit peu partout dans le
Mais
monde.
là, ce sont des lieux physiques qu'on peut voir si on va
Voilà,
sur
ce
place.
sont des lieux, mais il y a souvent eu pendant des milliers d'années des maîtres qui étaient retirés là, dans ces lieux-là. Alors que le Shambhala se trouve dans le désert de Gobi, en substance éthérique. Ces êtres sont en substance éthérique. Ce sont des sortes de dieux planétaires, en quelque sorte, presque, hein, des sortes de demi-dieux. Et c'est connu dans la littérature bouddhiste, dans le Kalachakra Tantra, par exemple. Alors on en parle souvent comme un royaume, comme une ville, parce que ça fait allusion à un temps très ancien où il y avait vraiment une cité là, à cet endroit-là. Il y avait de l'eau d'ailleurs, on appelait ça l'île Blanche, et il y avait toute une très grande civilisation qui existait jadis. Et ces êtres donc existaient déjà, parce qu'ils sont vraiment très anciens, mais ils sont donc dans des corps éthériques. Et on a gardé en Orient plusieurs mythes, plusieurs légendes autour des fameux grands êtres de Shambhala. On a donné aussi des descriptions bouddhistes qui sont complètement allégoriques en fait, comme des grandes cités, on a donné des noms, des chiffres, on a ça dans le tantra du Kalachakra. Mais c'est tout simplement des symboles ésotériques parce que le but du Kalachakra, c'est que c'est une forme d'initiation pour entrer sa conscience, c'est-à-dire devenir un initié supérieur, entrer en lien avec ces énergies-là. Qui sont les énergies de la volonté spirituelle. Donc pour finir, on fait souvent un parallèle entre Shambhala, la hiérarchie de l'humanité, et notre monade, qui est reliée à l'aspect volonté de Shambhala, notre âme, qui est reliée au maître de sagesse, et notre personnalité, bien sûr, qui est reliée à l'humanité elle-même. Donc on a un parallèle dans les trois aspects. Pouvoir pour Shambhala et notre monade, amour-sagesse pour la hiérarchie et notre âme, et l'intelligence pour l'humanité et notre personnalité.
Dictionnaire de la sagesse ancienne, le mot cycle, un cycle des cycles, tout est cyclique.
C'est la notion de temps de l'ésotérisme, de la sagesse ancienne. Le temps tel qu'on le conçoit, le temps de la montre, hein, le temps linéaire n'existe pas, c'est une illusion en fait. Par contre, le processus cyclique, on le voit constamment dans le cycle de la journée. D'ailleurs, le temps de la montre essaye de se greffer sur ce cycle-là. Le cycle diurne, nocturne, le cycle des saisons. Mais il y a un cycle, donc ça on sait que c'est lié au mouvement de la Terre, hein, mais il y a des mouvements cycliques en spirale, qui sont des sortes de grands balayages des rayons, des énergies spirituelles fondamentales. Et on comprend, on connaît les cycles astrologiques. On sait que tous les 2000, 2500 ans, on dit 2160 ans parce que le cycle complet fait 25 920 ans, c'est-à-dire 12 fois 2160, le soleil rentre sous l'influence d'un des signes du zodiaque. Donc il est sous l'influence de certains rayons d'énergie plutôt que d'autres.
Actuellement, donc on sort des poissons, on rentre dans le Verseau, hein.
Voilà. Donc on sort de l'influence majeure du sixième rayon de dévotion, d'idéalisme, qui a coloré ces terres des poissons, et on entre dans l'énergie du septième rayon, l'énergie de l'organisation, l'énergie du rapport de groupe en quelque sorte sur le plan physique.
Ce rapport entre le temps et les cycles est pas très clair pour moi, David. En fait, quoi, ça veut dire que le cycle exprime le fait que le temps tourne en rond, qu'on revient toujours au point de départ?
Alors, il y a le mythe de l'éternel retour, mais il y a surtout cette idée que on reparcourt des phases du cycle, certes, mais à chaque fois on monte sur un étage supérieur de la spirale. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un mouvement cyclique en spirale. Et cette notion spirale est importante parce que tout ce qui existe est attiré vers un centre plus grand. Et si on suit le mouvement cyclique en spirale, on est attiré vers une source cosmique plus grande. Par exemple, notre Terre, elle est inclinée, car, dit-on dans l'enseignement ésotérique, elle est attirée par un grand centre cosmique qui a provoqué sa bascule et qui l'attire irrémédiablement. Et même tout notre système solaire est attiré, même notre galaxie, on sait qu'elles sont attirées entre elles, qu'il y a ce télescope maintenant. Donc il y a des grands centres immenses qui attirent des galaxies entières et des amas galactiques entiers. Donc on est toujours attiré vers un centre plus grand. Donc derrière ce mouvement cyclique, il y a une sorte de ligne droite qui se définit, qui se dessine, et l'évolution tend vers un but. Donc, pour que ce grand centre source puisse attirer à lui toutes les évolutions inférieures, il y a des balayages cycliques d'énergie qui transforment, qui transmutent littéralement, spiritualisent la matière qui reçoit ces impacts d'énergie. Et nous, sur Terre, on reçoit des impacts et énergies qui sont donc cycliques, qui viennent des planètes, qui viennent du Soleil, qui viennent d'autres soleils à côté du nôtre, de constellations plus grandes encore. Et on dit même que leur origine vient des sept étoiles de la Grande Ourse pour notre galaxie. Les sept rayons viennent de ce fameux chariot, tu sais, Olivier, qu'on voit, la première constellation qu'on arrive souvent à découvrir dans le ciel, hein, à repérer. Toutes les énergies viennent des sept étoiles de la Grande Ourse. Elles forment une polarité avec les sept étoiles majeures des Pléiades, et un triangle avec Sirius, qui est dans la constellation du grand chien. Les énergies circulent de façon cyclique dans ce grand triangle, et elles parviennent dans notre Soleil, et elles touchent des planètes, puis après elles rentrent dans notre système planétaire. Elles passent par Shambhala, le plus haut règne de la planète, puis elles sont abaissées, elles passent par la hiérarchie, et les initiés parmi le règne humain les reçoivent, les disciples, puis inconsciemment l'humanité entière les assimile et les transmet sans même le savoir au règne inférieur. Animaux, les animaux, les végétaux, les minéraux, les règnes de subhumains en fait. Et tout ça est organisé dans un mouvement cyclique en spirale. Et l'astrologie que pratiquent les maîtres, c'est la science de ces cycles-là. Et les maîtres savent pertinemment, parfaitement, certains maîtres sont plus spécialisés que d'autres, mais les maîtres de sagesse savent les courants d'énergie qui vont impacter la Terre à tel moment. Ils connaissent les énergies, proprement dit, les rayons, donc ils savent grosso modo l'impact que telle énergie va avoir sur les entités de chaque règne, les individus de chaque règne qui sont plus sous l'influence aussi de certaines énergies plutôt que d'autres, et des groupes entiers d'ailleurs. Donc voilà comment les maîtres définissent aussi le plan d'évolution en fonction des grands cycles. Donc si on résume, il y a le cycle journalier, le cycle mensuel, le cycle annuel et des cycles plus grands qui correspondent aux énergies des rayons, qui se mêlent les uns dans les autres. Et tout ça est contenu dans une grande ère zodiacale d'environ 2500 ans. Et là, c'est elle-même une étape dans un cycle bien plus grand, d'une ronde zodiacale de 25 000 ans, grosso modo. Et lui-même est une portion d'un cycle plus grand, de 250 000 ans. Et voilà, et on arrive dans des cycles planétaires gigantesques. On peut juste les citer pour ceux qui connaissent un peu les enseignements ésotériques de Madame Blavatsky. On parle de rondes. C'est des cycles qui durent des millions, voire plutôt même des milliards d'années. Chaque planète vit des très très grands cycles. Chaque planète vivrait sept grands cycles comme cela. Donc on voit qu'on est dans un univers cyclique permanent. Et les évolutions aussi humaines suivent ce cycle-là. Au début, on développe plus l'aspect de la forme, la personnalité, puis l'âme rentre en ligne de compte quand on commence à approcher de l'évolution spirituelle, des initiations. Puis après, un autre cycle d'influence arrive, c'est celui de la monade, de l'esprit, et on devient un maître. Et on passe d'un règne à l'autre pareil, dans toujours ce mouvement cyclique en spirale. Donc les cycles sont vraiment la base de l'élément temps dans l'ésotérisme, et c'est ce qui permet de comprendre les impacts sur les sphères, les différentes zones de l'espace.
Donc le temps, c'est simplement un dénombrement de la... Comment on pourrait dire, la durée du cycle? Non, c'est un dénombrement du temps qui passe en fonction du nombre de cycles, en fait.
C'est une succession d'états, c'est lié à la façon dont la conscience enregistre, en fait, ces mouvements cycliques. Le temps est indissociable de l'espace.
Oui.
On le sait, hein, les scientifiques ont calculé, par exemple, le Big Bang, il faut remonter ça à environ 13 ou 15 milliards d'années, et l'âge de la Terre autour de 4 milliards, 3 à 4 milliards, je ne sais plus exactement. Donc forcément, l'espace est lié au temps dès le départ.
À partir du moment où il y a de l'espace, il y a forcément du temps. Et s'il y a du temps, il y a forcément de l'espace.
Obligatoirement.
Et le cycle est indépendant de ça, alors ?
Non, justement, le cycle est lié complètement à l'espace, parce que le cycle, on pourrait dire, c'est des zones de l'espace qui vont être stimulées à certains moments. On pourrait définir le cycle comme cela. Donc on voit que un cycle va forcément impacter, avoir des influences sur certaines...
Donc le cycle relève de l'espace, donc il relève de l'incarnation. Donc il est illusoire aussi bien que le temps, alors.
Alors si on se place du point de vue de certaines grandes philosophies comme celle du Vedanta, qui place le soi comme seule réalité, on pourrait dire que du point de vue du soi, tout est maya, tout est illusion, donc l'espace-temps, même du cosmos, est illusoire. C'est un point de vue, on dit, moniste.
Alors pourquoi est-ce que nous, êtres humains, nous sommes soumis au temps, mais dit-on, les maîtres de sagesse ne le sont pas, et qu'ils voient tout sous forme de cycle ?
Parce que nous sommes soumis au temps physique. On est beaucoup conditionné par notre cerveau. Donc là, on est la fin du cycle en quelque sorte. Mais eux sont conscients de toutes les vagues cycliques qui agissent à différents niveaux. Et ils savent à l'avance que certains événements se préparent sur tel plan parce que les énergies, donc l'impact cyclique est déjà présent. Mais ça va mettre plus ou moins de temps dans notre échelle à nous pour descendre par exemple du plan mental dans le plan astral, puis sur le plan physique, et certains n'ont même pas parfois suffisamment d'énergie pour se manifester. Donc parfois il y a des événements qui ont lieu uniquement mentalement. Donc eux arrivent à voir, vu qu'ils ont une omniscience, une conscience complète, tout le spectre d'influence, tous les niveaux où l'influence cyclique va s'exercer. Mais nous on est sur le plan physique. Donc pour nous, le temps, c'est quand ça impacte sur le plan physique et qu'on peut le voir, qu'on peut le dénommer. Mais pour les maîtres, c'est différent. C'est comme ça qu'ils savent qu'ils peuvent voir le passé qui existe sur ces plans-là, qui sont le passé est enregistré, et ils peuvent saisir des grandes lignes de l'avenir parce que les impacts, les énergies sont déjà là.
Écoutez toujours le dictionnaire de la sagesse ancienne, et là je suis tombé sur un mot assez de jargon, je trouve, c'est le mot pralaya. Pralaya, ça me fait penser au nirvana, ça me fait penser au paradis, ça me fait penser à quelque chose qui se passe entre deux incarnations, si on prend l'hypothèse de la réincarnation.
C'est un terme donc sanskrit, encore une fois.
Alors, on trouve l'étymologie, David.
Voilà, chez les brahmanes, le pralaya, c'est un cycle ou un temps d'obscuration. C'est un moment où dans la vie, alors ça peut être la vie d'un homme, tu l'as cité, mais ça peut être la vie d'une planète, ça peut être la vie d'un système solaire, du cosmos tout entier, il y a un moment où il y a sommeil. inactivité, il y a retour sur soi, obscurité, c'est ça le pralaya.
Obscurité vis-à-vis de la vie extérieure.
Il y a non-manifestation.
Voilà, oui.
Par exemple, dans l'occultisme, on pense que il y a eu certes le Big Bang, même si on n'appelle pas ça comme ça, et les scientifiques parlent d'un Big Crunch, hein, d'un retour de l'univers sur lui-même. Et ben, à l'issue de ce Big Crunch, de ce retour sur soi, le cosmos va vivre une période de non-existence. Et ça, c'est valable aussi pour une galaxie entière. On sait que les galaxies, même si elles ont des cycles très très grands, elles vivent, elles croissent, elles meurent. Et donc, quand elles meurent, elles rentrent en obscuration.
Mmh.
Elles se dématérialisent en quelque sorte.
Elles se retirent d'incarnation, elles se dématérialisent, mais ça ne veut pas dire que l'entité qui est derrière, elle, meurt.
Oui, ça c'est encore autre chose, parce que même quand le cosmos s'arrête, tout retourne dans l'absolu, et c'est en sommeil en quelque sorte.
Mmh.
Donc cette idée, elle est valable au niveau du cosmos, d'une galaxie, d'un système solaire. Le soleil, on sait qu'il n'est pas éternel, qu'il va un moment disparaître, il y en a d'autres qui réapparaissent. Et la planète aussi vit plusieurs grands cycles. Alors je vais vraiment simplifier, et notre planète actuelle vit 7 grands cycles. Et à la fin de chaque grand cycle, on appelle ça une ronde, il y a un pralaya. Il y a un temps équivalent, c'est en milliards d'années, dit-on dans l'ésotérisme. Il y a un temps où tout va être assimilé. Puis de nouveau, il y a une nouvelle ronde qui arrive, il y a une nouvelle manifestation. Et notre Terre serait dans la quatrième ronde sur les 7.
Mmh.
Et à l'intérieur, donc, chaque règne aussi, et même chaque espèce vit en quelque sorte ses pralayas. Il y a des espèces qui, par exemple les dinosaures, sont sortis d'incarnation. Ils ont évolué dans d'autres formes, mais ils ont vécu en quelque sorte leur retrait. Et nous avons cette répétition générale chaque nuit. Quand on dort, on peut dire que... Alors là, le corps disparaît pas, certes, mais la conscience rentre en quelque sorte en pralaya. Elle rentre en sommeil. D'ailleurs, on sommeille, on rêve, on va sur le plan de l'âme, là où on ne rêve pas, en fait. Et c'est valable entre les incarnations, comme tu le disais. Donc là, c'est tout à fait associé à l'idée religieuse du paradis. Un monde où l'âme se repose, réintègre la source. Elle rentre dans le sein divin, dans les bras de Dieu, en quelque sorte, et vit une sorte de sommeil, parfois extatique. Alors le pralaya a été aussi décrit de façon différente par les traditions, mais en gros, il y a souvent un enfer pour ceux qui passe en sommeil sur des plans inférieurs. Il y a un monde intermédiaire qu'on a appelé purgatoire dans la tradition chrétienne, et puis le paradis pour les élus, en quelque sorte, ceux qui avaient vraiment le contact avec l'âme. Donc on dit que l'on va sommeiller, qu'on rentre en pralaya sur le plan qui correspond, qui est la correspondance de celui qu'on avait vécu lorsqu'on était en activité.
En vie, donc. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce pralaya ? Donc ça dépend de notre niveau de conscience au cours d'une vie donnée. On va être plus ou moins conscient de ce qui va se passer alors qu'on n'est pas incarné, c'est ça ?
Alors les moins évolués passent... Les âmes sont peu impliquées en fait parce qu'elles sommeillent chez eux. Donc quand la personnalité meurt, la conscience reste sur le plan astral et émotionnel et ils reviennent souvent assez vite en incarnation. Ils ne montent pas forcément jusqu'au plan supérieur. Donc eux n'ont vraiment pas de conscience parfois même qu'ils sont morts. Il y a une forme de continuité de l'activité, parce que l'activité qu'ils vivaient sur le plan physique, elle était en grande partie astrale, émotionnelle, ils la continuent en quelque sorte dans une forme de rêve qui se continue. Et ils reviennent très très vite, et quand le contact à l'âme commence à se faire, à ce moment-là, il y a des pralayas qui se vivent vraiment sur le plan de l'âme. C'est-à-dire la conscience complète de l'individu se réintègre sur le plan de l'âme, et là on a des périodes extatiques en quelque sorte, des sommeils où l'âme accumule, avec, on en avait déjà parlé, hein, les atomes permanents, tout l'acquis contenu dans ces espèces de boîtes noires, hein, sur le plan mental, émotionnel, physique, l'âme intègre ces expériences. Donc le pralaya, c'est une période d'excarnation, on pourrait dire, qui prépare une nouvelle incarnation si l'on admet le processus de renaissance. La différence des traditions monothéistes, c'est qu'elles ont perdu le concept de réincarnation, de renaissance. Donc le pralaya, il n'y en a qu'un, en quelque sorte, hein, un paradis. C'est pour ça que c'est assez dogmatique dans le sens où il faut vraiment réussir sa vie, sinon on n'a pas une deuxième chance. On ne revient pas. C'est pour ça qu'il y a toute une mythologie, une théologie, pardon, autour de des damnations éternelles pour ceux qui ont échoué, ou alors du paradis éternel. Ceux qui sont dans le purgatoire, dans le monde intermédiaire, vont à un moment passer normalement dans le plan supérieur, ou alors être attirés de nouveau dans les limbes des enfers. Donc ça, c'est des visions qui sont presque mythologiques en fait, hein, mais dans la réalité ésotérique, au fur et à mesure, les âmes se reposent, entre guillemets, où la conscience de l'individu se repose vraiment sur le plan de l'âme. Donc dans un réel paradis, jusqu'à ce que la continuité de conscience soit totale, que la conscience incarnée ne perde plus du tout contact avec le plan spirituel. Et là, il n'y a même plus besoin de réincarnation parce que l'homme est devenu un maître de sagesse. Donc il n'y a plus de période d'inconscience, de paradis, de choses comme ça. Ou alors c'est une forme de paradis perpétuel parce que la conscience du maître est totale sur les plans supérieurs. Il n'y a pas une période de sommeil pour revenir en incarnation, c'est ça l'idée. Donc le pralaya disparaît.
Allez, après ce passage de Mozart, nous revenons à notre dictionnaire de sagesse ancienne avec le mot triangle. Triangle, triangle, ça évoque la Trinité. C'est une sorte de concept, si on peut dire ce mot, fondamental de toutes les grandes traditions, la Trinité qui préexiste à tout ce qui existe, en fait, toute incarnation.
Oui, la Trinité, c'est les trois facettes de l'absolu. Alors en langage chrétien, assez anthropomorphique d'ailleurs, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui est l'équivalent de la Mère, Shiva, Vishnu, Brahma en Inde. En termes de rayon, de rayon d'aspect, ça serait le premier principe, le premier aspect, celui du pouvoir, de la volonté. Le deuxième aspect, celui de l'amour, de la sagesse. Et le troisième aspect, celui de l'intelligence créatrice. Donc ces trois aspects-là sont présents à tous les niveaux. Et les énergies circulent toujours selon ces trois pôles. En quelque sorte, on peut dire qu'ils forment une sorte de triade électrique. On parle beaucoup d'électricité dans les enseignements ésotériques modernes. L'idée, donc pas seulement l'électricité physique, mais qu'il y a plusieurs formes d'électricité, même inconnues, où il y a constamment un pôle positif, un pôle négatif, qui crée une interaction, et un pôle équilibrant. Et l'énergie circule entre ces deux pôles et ce troisième et est dirigée de cette façon-là. Et partout dans l'univers, la circulation d'énergie se ferait sous forme de triangle. Tout fonctionne et circule à travers ces triangles. C'est une façon de libérer l'énergie. C'est pour ça aussi qu'elle forme une forme de cycle, hein, de roue. Hein. Le triangle est contenu à l'intérieur du cercle, hein, en quelque sorte. Hein. L'énergie tournoie autour de ces triangles-là avant d'être envoyée. Dans notre galaxie, on dit que trois constellations forment un triangle majeur, la Grande Ourse, les Pléiades avec Sirius, et l'énergie circule dedans, avant d'être envoyée dans notre Soleil. Les planètes font des triangles entre elles, et il y a un grand triangle planétaire, on en a déjà parlé, Shambhala, la hiérarchie, l'humanité, l'énergie circule en quelque sorte dedans. L'énergie est toujours libérée par le pôle, par le troisième aspect, l'énergie, ici c'est l'énergie humaine.
Qu'en est-il du corps humain, de l'être humain ?
Alors c'est pareil, dans nos corps subtils, les corps forment des polarités entre eux. Il y a le plan de la volonté spirituelle, de l'amour spirituel, de l'intelligence spirituelle. En langage hindou, c'est Atma, Buddhi, Mana supérieur. Ça forme un triangle. Hein, donc toujours ce pôle le plus élevé. On avait dit aussi parfois Sattva, l'équilibre. au milieu le pôle de médian, le pôle rajas, et le pôle inerte, qui est ici symbolisé par le plan de l'intelligence spirituelle, le troisième aspect. L'énergie circule, et puis elle passe à travers un filtre, qui est notre âme individuelle, et le but, c'est que ce triangle supérieur, on peut le représenter avec une pointe en haut, s'unisse avec le triangle inférieur, qu'on peut représenter avec une pointe en bas. C'est-à-dire le mental supérieur avec le mental inférieur, le principe intuitif de l'amour spirituel avec le plan émotionnel, et le plan de la volonté spirituelle avec le plan énergétique, le plan éthérique, physique éthérique. Donc voilà, ça, et quand on relie ces deux triangles, ça fait le fameux, la fameuse étoile de David, hein, le sceau de Salomon, qui est aussi le symbole de Vishnu. Et le point au centre, ça serait l'âme individuelle, le pont, le lien entre cette triple influence supérieure qui doit se refléter dans l'influence inférieure. Et on dit que c'est pareil dans nos chakras, il y a des triangles constamment. Et le triangle le plus important dans nos centres d'énergie, c'est tête, cœur et gorge, ou tête, gorge, cœur si on suit les étages du corps. On dit que ce triangle est relié à un autre triangle qui est à l'intérieur de la tête, qui peut être important pour ceux qui méditent, c'est le sommet de la tête avec le front et l'arrière de la nuque. Ça forme un triangle, relié d'ailleurs à ces trois chakras-là. Et bien sûr, il y a le triangle des centres inférieurs après, le plexus solaire, le deuxième chakra, l'abdomen et la base. Donc on voit que tout fonctionne sur ce 3, qui donne après un septénaire. Les énergies circulent constamment. De cette façon-là. C'est une sorte de loi énergétique.
Il y a aussi des formes de méditation qui utilisent les triangles.
Alors tu penses au...
La méditation des triangles, je crois que c'est Alice Bellet qui avait indiqué ça. Hein, que trois personnes peuvent se relier mentalement, pas forcément à la même heure. Et donc elles vont se trouver à des endroits différents, pas forcément à la même heure. Et à un moment de la journée, mettons, elles vont penser à ce triangle qui les relie et sous forme, je crois, d'une lumière blanche.
Et donc ce triangle va aider la hiérarchie des maîtres de sagesse. Ils vont utiliser ce triangle que les personnes donc relient mentalement, visualisent entre elles, pour diriger, envoyer un influx d'énergie dedans. Mmh. Parce que les maîtres disent que un triangle, quand l'énergie circule en triangle, elle circule beaucoup mieux, beaucoup plus intensément, même rapidement, entre trois personnes qui se réunissent, qu'entre une personne, puis après une autre, puis après une autre. Et dans la continuité de ce que tu dis, il y a la fameuse méditation de transmission qui a été présentée par Benjamin Creme dès mars 1974. Et il y a des groupes de méditation de transmission partout dans le monde. Et ces groupes fonctionnent pareil. Les gens se réunissent physiquement, ils utilisent un mantra qu'on appelle la grande invocation, qu'on a dans les livres d'Alice Bellet, qui était déjà utilisé pour le travail des triangles. Et ce mantra sert à relier ce groupe au groupe des maîtres, et les maîtres envoient les énergies dans ce groupe en formant des triangles entre les gens. Donc plus il y a de gens, plus il y a de réseaux triangulaires, plus l'énergie circule, et plus l'énergie intense peut être libérée sur la planète. En étant abaissée, parce que les énergies des maîtres sont bien trop élevées pour nous, elles sont abaissées à travers ces groupes-là. Mmh. Mais on aura l'occasion de reparler de la méditation de transmission. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le fonctionnement en triangle de circulation d'énergie est un fonctionnement universel qui existe dans les groupes, à l'intérieur de nos corps subtils, de nos chakras, dans la planète, entre les planètes elles-mêmes, entre les constellations, etc.
Est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu par la science, par la physique par exemple, ou la biologie?
Ce qui approche le plus, je pense, c'est le phénomène électrique, même si on n'a pas encore reconnu pleinement le fonctionnement du troisième pôle électrique, qui est le pôle neutre. Quand on va le découvrir, ça va, disent les maîtres, ça va vraiment ouvrir des nouveaux champs d'investigation. On sait qu'il faut toujours le pôle plus, le pôle moins, que l'électricité, c'est le fonctionnement de la pile, hein, par exemple. Hein, la lumière se crée comme cela, justement, mais ce qui est créé, ce qui est au milieu... Il y a encore des perspectives à découvrir et à investiguer pour retrouver ce phénomène électrique universel. Donc le positif, bien sûr, c'est l'aspect mâle. Le père, le négatif, c'est l'aspect mère, femelle. Et le fils, c'est la lumière, c'est ce qui entre, c'est ce qui équilibre. Donc ça serait le père, le fils, la mère, ou Shiva, Vishnu, Brahma.
continuant à tourner les pages de ce dictionnaire de sagesse ancienne, alors il y a un mot là derrière lui se trouve beaucoup de colonnes, il en fait des pages, c'est le mot détachement. C'est un concept qu'on relie beaucoup au bouddhisme, le détachement. Alors, il s'agit de se... Il y a plusieurs façons d'expliquer les choses, hein. On peut dire qu'il s'agit de se désidentifier, par exemple de ses pensées, alors que ce sont des pensées qui ne sont pas les nôtres, alors que ce sont des pensées qui sont issues d'un conditionnement, des pensées qui nous surviennent, on pourrait dire, parce qu'on capte des formes pensées qui existent sur les plans du mental, alors que on n'en est pas à l'origine.
Oui, se désidentifier de nos émotions, que l'on prend pour une réalité, alors qu'elles sont passagères, elles sont en grande partie aussi conditionnées, irréelles. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais...
Par exemple, si on dit « je suis en colère », on pourrait dire simplement « il y a de la colère qui me traverse ». Voilà. Déjà, ça aiderait à initier ce mouvement de détachement.
Et il y a toutes les sensations du corps aussi. Le corps, on en a conscience grâce aux sensations, en fait. Hein.
Mm-hmm.
Dès qu'on fait un mouvement, n'importe quoi, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps, on en a l'information. Donc tout ça, ce sont des formes de sensibilité, hein, physique, psychique ou mentale. Et dans l'enseignement traditionnel, hindou comme bouddhiste d'ailleurs, asiatique de façon générale, c'est aussi vrai en Occident, mais c'est moins marqué, c'est pas aussi clair. Tous ces états-là appartiennent au non-soi, ou à l'illusion, si on voulait parler en termes bouddhistes, parce que le soi n'est pas reconnu dans le bouddhisme, mais la nature réelle de tout cela, pour le bouddhisme, c'est la vacuité, ce que l'hindou appellerait Atman ou soi. Hein. Donc on est le soi, cette nature profonde, réelle des choses, qui est, elle, qui existe de toute éternité, qui est au-delà du temps, de l'espace, en fait. Et tout ce qui est passager, éphémère, que ce soit psychique ou physique, appartient à notre condition limitée d'être humain. Et c'est vrai que si on s'attache à ces choses-là, on s'attache à des chimères, en fait. En plus, ça bouge, ça évolue. C'est un reflet déformé de la réalité. Donc le détachement, ça consiste à... Pas à fuir, hein, Olivier. On a souvent tendance à voir le détachement comme une fuite, en fait. C'est très mal compris.
C'est plutôt observer d'un œil extérieur, c'est se mettre en position d'observateur.
C'est créer un espace, je crois. Un espace de conscience entre ces états psychiques. Parce que même à la rigueur, nos sensations du corps, c'est psychique, on a une sensation. Entre tous ces états psychiques et le soi. Et on crée un espace, et c'est la conscience qui crée cet espace.
Donc ça, un espace, ça veut dire un temps, alors un petit temps de recul, un temps de réflexion, un temps d'observation.
Alors c'est vrai que l'espace inclut aussi le temps. Ça peut être en termes de temps, on peut le voir comme ça, mais c'est l'idée en tout cas qu'on n'est pas, on ne devient pas immergé dans la chose, et on ne s'identifie pas, ça veut dire qu'on n'en fait pas notre identité profonde. Elle est une part de notre identité, ce qu'on appelle la personnalité, mais c'est la personnalité, c'est le masque. Hein. Persona, c'est le masque.
Mm-hmm.
Ce n'est pas notre nature réelle, c'est notre seconde nature. Notre nature conditionnée par notre histoire, en fait. Hein.
Est-ce qu'on peut dire un exemple vis-à-vis du corps physique? Mettons, est-ce que le fait de se dire, je ne sais pas moi, ce corps souffre à tel endroit, par exemple, je ne sais pas, j'ai mal au genou, ce corps souffre du genou, nous aide à nous détacher parce qu'on le voit comme quelque chose d'extérieur à soi, et quelque part c'est vrai, puisque c'est juste un véhicule pour que le soi se vive sur Terre, dans son incarnation, mais ce n'est qu'un véhicule, donc ce n'est pas soi. Est-ce que c'est pour ça que les grands hommes parlent d'eux à la troisième personne ?
Bon, il y a peut-être aussi de l'orgueil là-dedans, mais si on reprend ton exemple de la souffrance, c'est vrai que pour une même souffrance, ou en tout cas quelque chose qui semble similaire, deux personnes vont réagir complètement différemment. Une peut être complètement envahie et même jouer un rôle de celle qui souffre ou de celui qui souffre, et de permettre à cette souffrance d'envahir toute la psyché. Et certains arrivent à supporter des formes de souffrance en la reconnaissant, en l'isolant comme une partie de la psyché, mais en laissant de l'espace pour d'autres dimensions de l'être. C'est comme ça que des gens sont aussi plus dignes que d'autres dans la maladie, par exemple. Ça dépend du degré de maîtrise qu'on a de sa psyché, en fait. C'est pareil pour nos émotions. On vit des fois des émotions difficiles, douloureuses. Et voilà, tout va dépendre du degré d'attachement ou de détachement que ces émotions entretiennent avec nous. Est-ce qu'on est à Plus on y est attaché, plus elles vont nous faire mal, plus elles vont rester en nous, nous contrôler, nous dominer. Et l'inverse est vrai également. Plus on crée cet espace, cette distance, plus on les considère comme du non-soi, moins on les nourrit. Et selon le truisme occulte, l'énergie suit la pensée, donc moins on met de la pensée sur quelque chose, moins on la nourrit. Hein, la pensée, si c'est conscience en fait. Hein. Si j'accepte ces émotions-là comme une partie inférieure de mon être, une partie plus ou moins adaptée, si déjà je commence à ne pas confondre l'émotion et l'amour, ce qui sont deux choses très différentes, et que je cultive l'amour n'est pas une émotion, c'est quelque chose qui nous relie profondément aux êtres, aux choses, à la vie. À ce moment-là, les émotions passagères, troublantes ou pas, ou excitantes, vont être considérées comme des réactions, tout simplement. Et les nourrissant moins, elles vont au fur et à mesure s'appauvrir. Pareil pour nos pensées. On peut être complètement, ça c'est le propre de l'illusion, enfermé dans ses pensées. On peut y être très attaché à ses connaissances, à la pensée, à la recherche intellectuelle. Là aussi, il nous est demandé, il nous est conseillé par les maîtres de nous détacher de cela, parce que les pensées essayent de saisir la réalité, mais c'est encore une fois une image déformée des choses.
Alors, là, il faut aussi pas confondre le détachement et l'indifférence. L'indifférence aux autres, on pourrait se dire, ah ben, des gens meurent de faim sur Terre, mais c'est pas mon problème.
Oui, parce que le détachement implique aussi l'amour. En fait, on se détache du non-soi, mais l'amour est une qualité fondamentale du soi. Donc normalement, on va vers plus d'amour, donc plus de compassion pour les êtres qui souffrent. Mais on peut aimer et être détaché. Pas se laisser embarquer dans la souffrance, dans le malheur. D'ailleurs, si on veut vraiment aider ceux qui souffrent, on a à les aimer, mais il faut faire preuve vraiment de détachement dans cet amour.
Un amour actif dont ils ont besoin, oui.
Voilà, un amour actif, engagé, faut soutenir, faut être à côté. Je sais pas si on veut aider, être un médecin, faut pas tourner de l'œil dès qu'on voit du sang. Alors ça va de soi, c'est évident, mais c'est une forme de détachement. Ouvrir un corps et faire de la chirurgie, il y a une forme de détachement vis-à-vis du corps, naturel. C'est pareil pour les souffrances psychiques. Il y a plein de gens qui disent, oh, moi je pourrais pas travailler dans un hôpital psychiatrique. Mais on apprend à se détacher. Il faut pas s'isoler et se mettre une carapace. En général, on comprend le détachement comme là, ici, comme une fuite.
Durcissement, oui.
Voilà, c'est pas ça. C'est vraiment faire face aux choses et les laisser glisser. Et pas les laisser nous dominer et donc au fur et à mesure leur retirer notre énergie. C'est vraiment faire face, hein. C'est complètement différent de l'idée qu'on se fait du détachement primaire. C'est-à-dire, en fait, je souffre, ça fait mal, donc je m'en vais. Je fuis, j'ai peur. Donc le détachement, c'est dans l'ésotérisme le processus psychique fondamental de l'évolution spirituelle. On peut dire que si on veut développer n'importe quelle qualité, convenablement, la volonté spirituelle, l'amour, l'intelligence spirituelle, on est obligé à un moment ou l'autre de vraiment faire preuve de détachement pour développer les qualités supérieures.
Faut laisser de la place.
Voilà. On ne peut pas penser convenablement si on est attaché à ses pensées. On ne peut pas aimer quelqu'un convenablement si on est attaché à cette personne, si on est dépendante. Et pareil pour le corps, on peut pas. Et puis la matière, on ne peut pas avoir un rapport juste avec la matière si on est attaché aux choses. Et on est attaché aux choses, aux gens, à nos pensées ou aux pensées des autres. Quand on est admiratif des gens, on n'est pas attaché, on n'est pas détaché. On peut croire bêtement ce que disent certaines personnes parce qu'on les admire. Donc mentalement, on n'est pas dans une justesse. Donc je pense qu'on peut recommander le très bon livre qui traite des enseignements de Maitreya pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Les lois de la vie. aux éditions Partage Publications, préfacée par Benjamin Crème. Et Maitreya, vivant dans la communauté indo-pakistanaise, ce grand sage a donné beaucoup de causeries. Il a participé à beaucoup de causeries. Et ces causeries ont été synthétisées en quelque sorte par un collaborateur de ce sage Maitreya qui a synthétisé, rapporté ces causeries sous forme donc de résumé à deux journalistes. Et Maitreya explique ça très très bien. Ce moteur premier, cette importance du détachement, que le détachement crée plus de conscience dans l'être, la vraie conscience, qui crée la relation entre le soi et le non-soi. Parce qu'au début, le non-soi, ce que l'on croit être nous-mêmes, nous domine complètement. Et on pense être que ça, on pense être cet être de pensée, d'émotion, de ce corps. Et on s'enferme là-dedans et on est prisonnier. Et quand on commence à mettre de la conscience, on commence à faire une place à l'intérieur. On crée un espace intérieur pour que le soi, notre nature profonde, puisse commencer à s'exprimer. Et il y a un travail d'alchimisation qui se fait au fur et à mesure. Donc le détachement, c'est un puissant outil de transformation intérieure et même de transformation énergétique. Quand on se détache, on laisse de la place, comme tu dis, pour que des forces, des énergies supérieures descendent en nous, nous traversent, nous emplissent et accomplissent une forme de transmutation en nous. Donc les gens détachés sont très puissants, en fait.
Ils sont dans la vie, quand même, oui. Ça ne retire pas le fait d'être dans la vie.
Ils sont très aimants, très puissants, très intelligents. Donc voilà, c'est pas l'attachement. Dans notre culture occidentale, on a travaillé la compétition, donc il y a une forme d'attachement, il y a une forme de hargne comme ça. De
vouloir plus, attachement au bien matériel.
Donc c'est plus difficile pour nous occidentales de comprendre ça. Alors qu'en Occident, c'est plus naturel de comprendre le détachement. Il y a toute une philosophie autour du lâcher-prise, du détachement, qui permet d'être vide, mais pour être plein, en quelque sorte, de quelque chose d'autre que nous-mêmes, de plus grand.
Au début du dictionnaire, David, et je trouve le mot amour. Amour, est-ce qu'il faut dire amour avec un grand A, peut-être?
Oui,
ou alors est-ce qu'il faut ici distinguer entre l'amour avec un grand A, l'amour un petit A?
Oui, c'est pas l'amour d'une relation sentimentale entre deux êtres qui s'aiment, mari et femme.
C'est pas le sentiment amoureux, comme on l'appelle généralement, qui noue le plexus solaire, je crois, et
qui peut aussi impliquer le chakra du cœur, à gauche de la poitrine, mais qui n'est pas l'amour, c'est un reflet déformé de l'amour, avec un grand A. L'amour inconditionnel. Par exemple, si vous aimez une personne en particulier, vous êtes dans un amour qui est conditionnel. Vous aimez
une forme,
une personne particulière, parce que vous aimez ceci ou cela dans cette personne, ou parce que c'est votre femme, ou votre enfant, votre grand-mère, je ne sais quoi. Ou alors votre pays, vous êtes dans un amour sélectif, c'est un reflet déformé d'un amour plus grand dont parlent toutes les religions, l'amour de Dieu en fait, hein, un amour universel qui serait une forme de prémisse à la création. Et là, c'est intéressant de envisager cet amour comme une force d'attraction. C'est-à-dire que si on veut imaginer Dieu, Dieu il a voulu la création, la volonté, mais il l'a aussi aimé en quelque sorte, cette création, il a fait en sorte que les choses soient unies entre elles. Et en fait l'amour c'est ça, c'est l'énergie de l'union. C'est ce qui fait que les choses sont attirées les unes par les autres et sont reliées aussi entre elles. Elles ne sont pas dissociées. Donc le contraire de l'amour c'est la séparation. Donc l'amour, l'attraction... On peut dire que la conscience est synonyme aussi. Ce qui est conscient, c'est ce qui nous permet vraiment, conscience sans ambiguïté, hein, à l'état pur, c'est ce qui nous permet d'être en relation avec quelqu'un, avec une chose, un être. Et donc la relation, la mutualité en quelque sorte, hein, ce qui nous met en lien mutuel entre deux choses, ben c'est ça l'amour. C'est ce qui unit, c'est ce qui rapproche. Donc l'idée que l'amour est partout, c'est un peu curieux, même dans les... Sur notre planète, Dieu sait si l'amour ne se manifeste pas partout, mais pourtant il est présent. C'est sous-jacent. C'est là. C'est ce qui unit même les, dit-on, les particules de nos corps. Alors nos corps subtils, comme les particules de notre corps physique.
C'est ce qui montre aussi que tout est un, alors. Tout est unique, tout est un, oui, un.
Tout est relié.
Tout est relié.
Uni. Donc unité, relation, attraction, conscience, on peut dire que tout ça c'est synonyme. C'est l'énergie du deuxième aspect de Dieu. Mmh. L'aspect du Fils, on dit. Alors en langage chrétien, c'est le Christ, bien sûr.
Donc si je vis ce un, c'est ainsi, hein, je mets ainsi, bien sûr. Hein, si je vis ce un, je vais naturellement être dans cet amour, puisqu'en fait, tout est moi. Si je, c'est ça.
Il n'y a plus de dualité, en effet. Ça a été développé chez tous les grands sages mystiques, quels qu'ils soient, cet amour de la création, de Dieu, cette expérience mystique que l'amour est partout, que c'est ce qui unit, et que, à la rigueur, on utilise mal cette énergie, mais elle est là. On est vraiment unis. On le comprend pas forcément, ou alors on utilise cet amour d'une façon très très sélective, mais au fur et à mesure, on ouvre son cœur vers de plus en plus du monde, vers la famille humaine, et vers tout le vivant. Donc ça touche à la notion d'innocuité aussi. Hein, le fait de ne pas d'être inoffensif, en fait. De ne pas faire violence. Le symbole de Ahimsa, la non-violence, c'est ne pas blesser, ne pas tuer, mais ne pas faire violence, c'est-à-dire respecter tout ce qui est vivant. Donc on voit que c'est quelque chose d'universel, on n'est plus dans le cadre d'amour privilégié, en fait, avec un petit A. On arrive à remplir son cœur de cette énergie qui est là et qui fait que quand on la vit, on vit vraiment l'unité de tous les êtres vivants. Et cet amour, il est sur la planète, il est en dehors de la planète, il est dit les grands maîtres partout. Mmh.
Alors, est-ce qu'on peut faire le lien avec les rayons, c'est-à-dire les différentes qualités d'énergie ?
Oui, donc ça correspond, Olivier, on a dit, au deuxième aspect qui se manifeste sous la forme du deuxième rayon quand il émane. Hein. Donc le deuxième aspect, c'est la Trinité, avant même la création. Et les rayons entrent dans la création, ils sont responsables de la création.
Donc dans la Trinité, il y a trois rayons, c'est ça ?
Il y a trois aspects plutôt, parce qu'on n'est pas encore dans les rayons. Mmh. Et quand les rayons, les énergies émanent, le deuxième aspect est à l'origine du deuxième rayon, le rayon d'amour-sagesse. Hein ? Et le Christ, le principe christique, c'est cette énergie d'amour, ou de conscience, on dit d'évolution. Et quand on fait l'expérience de cette énergie, c'est toujours dans le cœur. Mmh. Et là, au niveau des chakras, des centres d'énergie, on dit que c'est le cœur qui est à droite de la poitrine. Donc, c'est pas un organe, hein, c'est un centre énergétique qui est à droite de la poitrine et qui est relié à l'âme. Parce que l'âme, peu importe son rayon, son énergie, elle est avant tout amour. Elle est amour-sagesse. Et les maîtres, ce sont ceux qui ont développé pleinement l'amour-sagesse. Donc, on dit que ce sont des maîtres de sagesse et des seigneurs de compassion. Des maîtres d'amour, en fait. Et donc, chaque être humain, peu importe son rayon, peu importe son destin, a toujours une chose à faire sur Terre, parmi d'autres. Il y a en général trois éléments, trois choix dans sa destinée d'incarnation, mais une chose toujours qui revient, c'est créer des justes relations. Développer le principe de l'amour. Mmh. Juste.
C'est comme ça qu'on peut nous manifester l'amour en tant qu'être humain incarné.
Plus on évolue, plus cet amour, alors c'est différent selon certaines personnes, ça se développe plus avant ou plus après, selon les natures de gens, mais au bout du compte, oui, il y a un amour total pour l'humanité, pour le vivant qui se développe pleinement jusqu'à...
Alors on dit qu'au départ, avant d'être capable de manifester cet amour avec un grand A, cet amour divin, on manifeste la bonne volonté.
Voilà, c'est le premier pas en avant. C'est-à-dire son voisin s'est fait inonder... Eh ben, on sort, on retrousse les manches et on va lui filer un coup de main. C'est une forme d'amour. C'est l'amour en action. Et ça, on le voit partout. Je suis, moi, platonicien. Je pense, comme Platon, que l'homme est bon fondamentalement. Le bien est dans son cœur. C'est inscrit en lui. Et quand on le lui permet, l'enfant, et également l'adulte, peut à tout moment manifester l'amour, peut développer cet aspect-là en lui. C'est inné, c'est fondamental.
Un petit mot de conclusion, David, sur l'amour.
Certaines personnes développent et manifestent l'amour de façon différente, donc il ne faut pas juger les formes d'expression de l'amour. Certaines personnes semblent froides, mais peuvent avoir un cœur très très aimant. Donc l'amour n'a pas de forme. Mais c'est quelque chose que l'on vit, que l'on sent et qui se traduit par des actes. Et quand ça se traduit en actes, on appelle ça le service. Le service, c'est l'amour en action.
Eh bien, cette émission s'achève. David, on va se retrouver à la rentrée maintenant pour voilà. Un nouveau dictionnaire de sagesse ancienne. On continuera une fois par mois à cette heure-ci.
On souhaite un bon été à tous et on se retrouve donc en septembre.